Bienvenue à cette fête des tabernacles, frères et sœurs. Enfin, nous y voici. Pendant de nombreux mois, nous attendions ce jour, et nous voilà enfin tous réunis. Nous sommes ici pour en apprendre davantage au sujet des vérités divines et pour tâcher d'avoir une vision plus claire de ce que sera le millénium. Ce sera, comme vous le savez, un millénaire de paix et de prospérité, et nous avons été appelés, vous et moi, pour régner et pour gouverner avec Jésus-Christ durant toute cette période. Frères et sœurs, vous est-il jamais arrivé de vous trouver dans une situation où vous auriez aimé guérir quelqu'un? De quelle maladie s'agissait-il? Vous-même, vous est-il arrivé d'attendre d'être guéri de quelque chose, mais sans obtenir cette guérison pour des raisons que Dieu seul connaît? Vous est-il arrivé de connaître quelqu'un qui était sourd ou aveugle? Quelqu'un qui présentait peut-être quelque difformité, ou à qui il manquait un membre à la suite d'un accident. Peut-être la personne présentait-elle un sérieux problème de santé, comme un cancer ou une grave maladie mentale. Dans un autre domaine, avez-vous jamais souhaité pouvoir restaurer des régions du globe qui ont été gravement polluées ou saccagées, comme ces ravages causés par la marée noire dans le golfe du Mexique, ou cette catastrophe nucléaire de Tchernobyl qui eut lieu il y a plus de 30 ans? À propos de cette dernière, on se souvient de ce qui était arrivé. Le réacteur était entré en divergence, ce qui avait conduit à des explosions et à l'émission d'énormes quantités de matière radioactive. Précisons que, malgré toutes les mesures prises depuis, le danger est encore loin d'être maîtrisé. Frères et sœurs, vous est-il déjà arrivé de vouloir offrir à des gens vivant dans une misère extrême un logis décent, leur permettant de vivre une existence paisible? Ne souhaiteriez-vous pas de pouvoir leur offrir des vêtements propres et confortables, une nourriture adéquate, ainsi qu'une occasion de prendre un bon bain chaud? N'oublions pas que, vous et moi, nous avons été appelés par Dieu afin de régner dans son royaume durant le millénium et après. Une des premières choses qu'il nous faudra faire, au tout début du millénium, ce sera de guérir une multitude de gens. Cela devra même précéder tout effort de rééducation qui suivra ultérieurement. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais qu'on étudie le processus qui pourra mener à une guérison. J'aimerais vous sensibiliser à l'immensité et à la nature de la tâche qui nous attend, et vous parler de ceux qui auront besoin d'être guéris. Si vous voulez un titre pour ce sermon, je vous suggère le suivant. Appelés à guérir le monde. Vous savez, au début du millénium, il y aura entre 2 et 3 milliards d'individus qui auront survécu à la grande détresse et qui se retrouveront sous l'égide du gouvernement de Dieu. C'est là le chiffre auquel nous arrivons lorsque nous nous basons sur ce qui est révélé dans Apocalypse 6 et 9. Il s'agit donc d'une grande multitude. Si nous étudions les prophéties et tenons compte de ce que nous révèlent tous les prophètes, si nous prenons en considération ce qui est dit dans Lévitique 26 et dans Deutéronome 28, où il est question des bénédictions et des malédictions, cela nous donne un regard sur le futur. Il est indéniable que ceux qui auront à passer par la grande tribulation et le jour du Seigneur, ceux-là connaîtront une période d'intense souffrance et de douleur. Ce sera pour eux une époque terrible. Beaucoup d'entre eux auront vécu des expériences horribles. Ils auront connu la famine. Ils auront vu leurs êtres chers souffrir, être roués de coups, être violés, avant d'être finalement mis à mort. Ils auront passé par des expériences similaires à celles qui régnaient jadis dans les camps de concentration nazis. Dr. Meredith a évoqué ce qu'ils auront subi quand il s'est adressé à nous dans son message inaugural au début de la fête. Il évoquait alors les conditions extrêmes auxquelles ils auront été soumis, mentionnant entre autres les retombées radioactives qui résulteront du recours à des armes nucléaires. Frères et sœurs, quel sera l'impact de tout cela sur la santé des survivants? Imaginez les difformités qui en résulteront, certains ayant même perdu des membres. Pensez à la condition mentale dans laquelle ils se retrouveront, eux, des gens qui ont été créés à l'image de Dieu. De nos jours, on parle beaucoup de troubles causé par un stress post-traumatique. Eh bien, ce phénomène va se répandre plus que jamais en raison de tous ces conflits partout dans le monde et de toutes ces guerres qui se déclencheront. Ainsi, lorsque le jour du Seigneur touchera à sa fin et que Christ reviendra sur terre, il nous faudra nous occuper de tous ces gens qui présenteront de tels symptômes, parce qu'ils auront vécu toutes sortes de traumatismes. Bien sûr, certains, qui seront gravement blessés, nécessiteront une intervention immédiate. Mais beaucoup de ceux qui auront été témoins d'atrocités durant cette grande détresse à venir nécessiteront eux aussi qu'on vienne à leur secours, car ils seront littéralement dévastés après les expériences traumatisantes qu'ils auront vécues, parfois au point de souffrir d'incapacité. Frères et sœurs, voilà les gens que nous serons amenés à enseigner dans le royaume de Dieu. Au début du millénium, il nous faudra rééduquer ces gens. Nous aurons affaire à quantité d'individus qui auront passé à travers beaucoup de problèmes. Soyons francs et réalistes. Avant que nous ne puissions procéder à la rééducation des survivants de cet holocauste du XXIe siècle, avant de pouvoir leur enseigner la voie de Dieu et ses commandements, avant qu'ils ne soient en mesure de s'auto-évaluer, de s'examiner et d'apprendre à changer leur façon de penser et d'agir, il faudra d'abord qu'on les guérisse physiquement et émotionnellement. Il y a bien des années, un psychologue américain du nom de Maslow accomplit une étude remarquable, dont le but était de comprendre pourquoi les gens agissent comme ils le font. De fait, il y consacra toute sa carrière. Au départ, il fit plusieurs observations en se basant sur le comportement de rats, pour ensuite se concentrer exclusivement sur des êtres humains. Il ne tarda pas alors à se rendre compte de ce qui motive les gens à agir comme ils le font et des limitations qu'ils subissent lorsque certains de leurs besoins ne sont pas satisfaits. Selon ses mots, ils sont alors limités dans leur capacité de parvenir à un auto-accomplissement. Il se mit alors à rechercher les besoins primaires qui doivent être satisfaits chez l'individu avant que celui-ci ne puisse acquérir la capacité de considérer et de brasser des concepts plus élevés et plus subtils, comme ceux qui ont trait à la moralité et aux valeurs sociales. À cela, on pourrait inclure les valeurs que nous enseigne la parole de Dieu. Discerner entre le bien et le mal, et vouloir faire le bien, peu importe ce qu'il nous en coûtera. Maslow put constater, ce que les psychologues ont accepté depuis lors, que les gens ne peuvent se hisser à un tel plan intellectuel tant que leurs besoins primaires n'auront pas été satisfaits. Cela l'amena alors à définir une hiérarchie de besoins à laquelle son nom est maintenant lié. On parle dorénavant de la pyramide de Maslow. Plusieurs d'entre nous en ont entendu parler, mais pour ceux dont ce n'est pas le cas, laissez-moi vous la décrire brièvement. Maslow a donc conçu une structure pyramidale et il a placé au sommet de cette pyramide les concepts intellectuels les plus complexes, ceux qu'il qualifie d'auto-accomplissement. En fait, des points qui s'apparentent un peu à l'idéal divin. Il s'agit en l'occurrence de développer notre esprit, notre capacité de penser et de raisonner, et de nous concentrer sur des choses plus élevées, telles que la morale et le besoin de tendre vers la perfection. Voilà pour les éléments qui sont au fait de cette pyramide. À l'inverse, à la base de cette pyramide, nous trouverons les éléments primaires de cette hiérarchie des besoins, des choses comme nos besoins en nourriture, en eau, ainsi qu'un abri contre les intempéries. Une fois que ces besoins de base sont couverts, les gens seront prêts à s'élever vers un niveau où ils vont chercher à satisfaire d'autres besoins, comme celui d'un sens d'appartenance et le désir d'être aimé. Franchement, je ne crois pas qu'un individu qui se meurt de faim a pour souci premier d'être aimé. Ne voudra-t-il pas plutôt savoir d'où lui viendra son prochain repas? De même, quand on craint pour sa survie, parce qu'on est conscient qu'on pourrait la perdre à n'importe quel moment, est-ce le moment de se faire du souci à propos de notre position sociale? Plus haut encore dans la pyramide, Il sera question d'estime de soi, d'avoir confiance en soi-même et du besoin d'accomplir des choses. Tout cela nous donne l'occasion de penser à ce que nous vivrons lors de l'établissement du millénium. C'est que, encore une fois, ceux qui franchiront le seuil du millénium auront pour souci premier que certains de leurs besoins de base soient couverts. Pour beaucoup d'entre eux, ils auront connu la famine. Ils seront arrivés à la dernière extrémité. De plus, nombre d'entre eux auront connu d'intenses traumatismes émotionnels. Ils seront assiégés de peurs qu'il nous est difficile d'imaginer, des peurs qui les consumeront au point de les paralyser dans l'inaction. Ils craindront pour leur sécurité. Ils n'auront pas d'endroit pour vivre. Ils auront besoin d'être vêtus. Plusieurs parmi nos personnes âgées se souviennent sûrement de ces images ou de ces séquences filmées qui circulaient après la Seconde Guerre mondiale. Des images qui montraient ces Juifs qui avaient survécu aux atrocités et aux privations dans les camps de concentration nazis. C'étaient des êtres humains émaciés, auxquels il manquait parfois des bras ou des jambes, des êtres en haillons. Dans cet état, il leur serait difficile de se pénétrer de l'idée qu'un jour ils seront comme Dieu. Il faudra d'abord leur fournir de quoi manger, de quoi boire et un abri. Il faudra aussi les soulager de leur douleur, à cause de la perte d'un membre ou en raison d'une terrible maladie. Certains devront être délivrés d'intenses troubles émotionnels. Tous auront besoin d'être guéris, que ce soit physiquement ou émotionnellement, avant qu'il ne soit possible d'intervenir pour changer leur vision des choses, de les rééduquer et de leur enseigner la voie de Dieu. Veuillez à présent vous reporter à 2 Timothée chapitre 1, au verset 7, un verset qui nous est sûrement familier et que nous avons dû lire auparavant, un verset qu'il nous faut garder à l'esprit, car il y est question de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. L'Esprit de Dieu est la puissance qui a créé l'univers, la puissance qui nous a créés, vous et moi. C'est cette puissance qui va bientôt transformer le monde et amener sa guérison. Cette puissance émane d'un être altruiste qui est plein d'amour, qui a notre bien-être à cœur et qui va bientôt nous apporter du soulagement et une guérison tant nécessaire. Pour débuter, examinons certains miracles qui eurent lieu jadis, des miracles que Dieu a accomplis principalement par son Fils durant son séjour parmi nous dans la chair, mais aussi par l'entremise de certains autres individus. Cela nous donnera une idée de la puissance qui sera nôtre lorsque nous serons dans le royaume de Dieu. Souvenez-vous de ce que disait Dr. Meredith dans son allocution au début de la fête. Il parlait de ces bénédictions que nous accorderons aux gens de ce monde, au début du millénium, quand nous serons dans le royaume de Dieu. Nous serons alors des êtres spirituels, des membres de la famille divine. Il nous sera donné de bénir les gens de ce monde, et une façon de les bénir, particulièrement au début du millénium, consistera en des guérisons. Voyons pour cela Matthieu chapitre 8, où il sera question de quelques-uns des miracles opérés par Jésus-Christ. Mon intention est de les présenter par ordre d'importance, tout en sachant bien qu'un miracle est un miracle et que, pour Dieu, aucun n'est plus difficile qu'un autre. C'est nous qui établissons ces ordres d'importance. Ainsi, à nos yeux, ressusciter un mort passe pour être un miracle de première importance. Alors, débutons avec Matthieu 8, versets 1 à 4, où il est question d'un événement qui se produisit alors que Jésus venait de donner son sermon sur la montagne. Jésus avait parlé à ses disciples au sujet du royaume de Dieu, les informant du genre de caractère qu'il attendait, de ceux à qui il accorderait d'en faire partie. Le voilà donc qui descend du mont des Oliviers, où il vient de les enseigner. Matthieu, chapitre 8, verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Verset 2. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Cela dit, la lèpre est une maladie qui existe encore aujourd'hui. Sauf qu'à cette époque-là, on n'avait rien pour la combattre. La lèpre cause des douleurs. Elle provoque un changement de coloration de la peau qui se met alors à pourrir et à dégager une odeur nauséabonde. C'est une vilaine maladie, et ceux qui en étaient atteints se faisaient exclure de la société, car elle pouvait être contagieuse. On avait hâte de les mettre à l'écart. On voit donc ce lépreux qui s'approche de Christ pour l'implorer de le guérir. Verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis, verset 4, Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Christ accepta donc de guérir ce lépreux. Il n'eut pour cela qu'à prononcer ces deux mots, « Sois guéri. » Et la chose fut accomplie par la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Certains vont peut-être considérer cela comme une guérison mineure. Plus loin, au verset 14, nous trouvons un autre cas de guérison que d'aucuns considéreront comme encore plus insignifiante que la précédente. Il y est question de Jésus-Christ qui s'était rendu dans la maison de Pierre, où il rencontra la belle-mère de Pierre qui était malade et faisait de la fièvre. Entre parenthèses, il y en a qui prétendent que Pierre, qu'il nomme Saint-Pierre et considère comme le premier pape, que Pierre avait été célibataire. Cependant, ici, Pierre est manifestement marié, car on mentionne sa belle-mère qui est malade. Il est vrai que nous ne savons pas à quel point sa maladie était sérieuse. Mais nous avons tous fait de la fièvre et savons comment on se sent en pareil cas. Dieu a conçu la fièvre pour qu'elle nous force à nous reposer, afin que le corps puisse se mobiliser pour lutter et reprendre le dessus. On se sent alors faible, privé d'énergie et somnolent. On peut aussi éprouver des douleurs. Toujours est-il que Christ est confronté à la belle-mère de Pierre qui est dans un tel état. Il aurait pu l'ignorer. Et elle aurait probablement réussi à récupérer d'elle-même 3, 4 ou 5 jours plus tard. Mais cet exemple prouve que, pour Dieu, aucun mal n'est trop banal pour justifier qu'il se montre indifférent. Voyons sa réaction. Il voit donc cette femme qui souffre. Sans dire un mot, il touche alors sa main, et aussitôt la fièvre la quitte. L'instant d'après, on la voit qui se lève, et qui se mettent à les servir. Guérison banale, allez-vous dire. Pourtant, vous souvenez-vous du soulagement que vous éprouviez lorsque la fièvre avait fini par vous quitter? Vous n'étiez peut-être pas encore tout à fait rétabli, mais vous vous sentiez déjà pas mal mieux. On voit ici la compassion de Christ à l'œuvre. Voyons à présent quelques cas de guérison un peu plus spectaculaires. Encore une fois, notez que cette classification est le fruit de notre imagination, car toute guérison divine doit être considérée comme un acte merveilleux. Voyons donc maintenant quelques guérisons plus dramatiques. Pour cela, allons dans Actes le chapitre 20 au verset 29. Actes 20, verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Verset 30. Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Évidemment, ils ne le voyaient pas, mais en apprenant qu'il était parmi eux, ils se mirent à l'appeler. Verset 31. La foule les reprenait pour les faire taire. On ne voulait pas qu'il importune le maître. Il doit sûrement avoir des choses plus importantes à faire que de s'occuper de deux aveugles assis sur le bord du chemin. Mais ils crièrent plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Verset 32. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Ils n'allaient pas les guérir comme ça. Ils allaient devoir formuler une requête. Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Évidemment, pour ceux qui ne sont pas aveugles, ils ne peuvent pas s'imaginer à quel point ces deux malheureux désiraient qu'il leur manifeste sa puissance. Quelle fut alors la réaction de Jésus? Verset 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Voilà qui a de quoi nous émouvoir. C'est assurément quelque chose de spectaculaire. Rendons-nous à présent au chapitre 3 du livre des Actes, où nous retrouvons les disciples après la résurrection de Christ et son retour auprès du trône de Dieu. Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Notez que plus loin dans Acte 4, verset 22, il est mentionné qu'il avait plus de 40 ans. Il n'avait jamais pu marcher. Il était né avec ce handicap et le problème était dû à ses pieds et à ses chevilles. Donc, tout le monde savait qu'il n'avait pas marché depuis sa naissance il y a plus de 40 ans. C'était donc un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Lorsque vous voyagerez à travers le monde, vous ne pourrez manquer de remarquer ces mendiants qui sont placés à l'entrée des églises ou sur les escaliers qui y mènent. Cela vaut particulièrement pour les églises catholiques. Et ceux-ci passeront leur temps à solliciter des dons. Il s'agit de gens qui sont malades, qui souffrent, qui sont dans le besoin, et il leur faut mendier pour survivre. C'est ce que faisait cet homme au moment où Pierre allait entrer dans le temple. Il lui demanda l'aumône. Verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Frères et sœurs, pouvez-vous ici vous identifier à Pierre? Êtes-vous conscient du fait que vous serez un jour, bientôt peut-être, placé dans une situation semblable et que la puissance du Saint-Esprit vous permettra alors d'agir comme Pierre? Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Pensez-y. Mettez-vous dans leur situation. Pierre et Jean entrèrent donc dans le temple avec cet homme qui avait été boiteux depuis sa naissance, il y a plus de 40 ans. Tout le monde le connaissait, même ceux qui ne venaient peut-être à Jérusalem qu'une ou deux fois par an, à l'occasion des fêtes du printemps et de l'automne. Cet homme faisait partie du décor durant toutes ces années. Or, voilà que, tout à coup, on l'aperçoit qui marche et qui saute aux côtés des apôtres. Quelle belle guérison que Dieu permit ainsi à ses apôtres d'accomplir en son nom. Plus loin dans Actes chapitre 5, versets 12 à 16, il est dit, Actes 5, verset 12, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. » Ils se tenaient donc à l'extérieur du temple. Verset 13, « Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. » Verset 15. « De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. » Et pourquoi cela? Afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. » Verset 16. « La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. » Imaginez un peu. Le simple fait que l'ombre de Pierre les couvre leur accordait la guérison. On parle ici de puissants miracles. Mais nous allons voir se manifester des miracles encore plus grands que cela. Lorsque vous serez confrontés à ces guérisons, notez que, dans la plupart des cas, celles-ci vont préparer le terrain pour la prédication de l'Évangile et l'enseignement de la vérité. Les guérisons eurent lieu en premier, et cela pour plusieurs raisons. D'abord pour captiver l'attention des gens et pour les amener à écouter. Par ailleurs, lorsque les gens se font ainsi libérer de leurs souffrances, ils sont alors plus disposés à écouter et plus à l'aise aussi. En effet, tant qu'ils étaient affligés par diverses maladies et handicaps, leur capacité d'écoute et de compréhension n'était-elle pas affaiblie? Rendons-nous maintenant à Jean, chapitre 11, verset 28, où il est question d'un miracle encore plus spectaculaire. Je suis sûr que vous avez tous connaissance de la mort et de la résurrection de Lazare. Jean 11, verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Il est ici question de Marthe. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Leur frère Lazare, dont Jésus se sentait très proche, venait de mourir. Bien que Jésus-Christ ait été informé du fait que Lazare se trouvait à l'article de la mort, il avait néanmoins retardé son arrivée. Son intention était d'attendre que Lazare soit mort. Il savait, dès ce moment-là, que le Père lui accorderait de le ressusciter. Verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. C'est parce qu'il pouvait voir les souffrances que cette mort causait à ceux qui l'entouraient. Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre avait été placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » C'est assurément un miracle extraordinaire que Dieu venait de produire ici par l'intermédiaire de Jésus-Christ et de la puissance du Saint-Esprit, car Lazare était mort depuis plus de 3 jours. On ne s'y reportera pas, mais dans Job, chapitre 38, verset 17, Dieu interpelle Job et lui pose la question « Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes ?» Elles le furent à Jésus-Christ, et elles le seront à ses serviteurs quand le temps sera venu. Voyons à présent Jean, chapitre 14, en commençant au verset 12, où Jésus fait des promesses à ses disciples et partant à nous aussi. Gardez-le à l'esprit quand vous penserez à des miracles. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Christ prophétise ici que son peuple, les saints, ferait des miracles encore plus grands que les siens, alors qu'il était ici-bas dans la chair. Frères et sœurs, Apocalypse, chapitre 21, verset 7, est un de mes versets favoris, et nous pourrions en parler pendant une demi-heure. Je vous encourage cependant à méditer sur son contenu pendant que vous êtes ici à la fête. Pensez à ce qu'il signifie vraiment et à ce qu'il annonce au sujet de ce que sera le millénium quand ce verset verra son accomplissement. Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Frères et sœurs, en nous appelant, Dieu a l'intention de faire de nous des membres de sa famille, la famille de Dieu. Lorsque ce moment viendra, nous serons changés. Nous en avons parlé durant la fête des trompettes, lorsqu'il a été dit que notre changement se produira en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Alors les morts en Christ seront les premiers à être ressuscités en tant que membres de la famille divine, et ceux d'entre nous qui seront alors encore vivants les suivront. Nous entrerons tous dans la famille de Dieu et deviendrons alors l'épouse de Christ, notre frère aîné. La Bible dit en effet qu'il remplira le rôle d'un mari à l'égard de l'Église qui est son corps. Nous serons alors devenus des enfants de Dieu à part entière, des êtres spirituels au vrai sens du terme, et il nous sera donné d'hériter toute chose, tout ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu? Eh bien, contemplez la terre, contemplez l'univers qui se déploie sous nos yeux, mais considérez aussi autre chose, à savoir la puissance qui est la sienne. Or, nous sommes appelés à hériter cette puissance de Dieu, de même que l'Esprit de Dieu d'ailleurs. Nous avons donc examiné quelques passages des Écritures, mais il y en aurait évidemment beaucoup d'autres où il serait question de guérison de toutes sortes, et même de résurrection. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, la Bible est pleine de ce type de versets. Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur des guérisons qui eurent lieu dans le passé. Mais qu'en est-il de celles qui auront lieu dans le futur? Que peut-on dire à propos de ces bénédictions qu'il nous sera donné d'accorder à l'humanité? Tournons-nous vers Michée, le chapitre 4. Frères et sœurs, j'aimerais maintenant consacrer le reste de ce sermon pour qu'on se concentre sur la façon dont nous guérirons les gens. Nous resterons dans le livre de Michée, ainsi que celui d'Ésaïe, jusqu'à la fin. Commençons donc dans Michée chapitre 4, au verset 1. Michée, chapitre 4, verset 1. Il arrivera dans la suite des temps. Lorsqu'il est question de la suite des temps, ou des temps de la fin, on parle parfois de cette époque qui précédera le retour de Christ, à moins qu'il ne soit question de l'époque qui suivra le retour de Christ, et qui s'étendra au millénium et après. Il arrivera donc dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Ce terme « montagne » qui apparaît dans les Écritures est souvent représentatif d'un royaume. Ce que ce verset nous dit, c'est donc que le royaume de l'Éternel sera exalté au-dessus de tous les autres royaumes de la terre. D'autres versets bibliques indiquent que le temple de Christ sur la terre sera littéralement élevé au-dessus de toutes les montagnes. Et cela parce que toutes les montagnes auront alors été abaissées. Ici, au verset 1, il est dit que la montagne de la maison de l'Éternel sera plus élevée que toutes les collines. Verset 2, « Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi. » Et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Verset 3, il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. De fait, les gens diront alors, « Allons à Jérusalem, afin qu'on nous enseigne les voies de Dieu. » Cela dit, au début de ce sermon, Il a été fait mention de ces gens qui seront aveugles, boiteux et sourds. Parallèlement, la Bible nous informe, dans Ésaïe 30, versets 20 et 21, « Tes yeux verront ceux qui t'instruisent, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Cependant, des boiteux ne pourraient marcher vers Jérusalem. Pareillement, ceux qui seraient aveugles ne pourraient voir comment s'y rendre. Quant aux sourds, comment pourraient-ils entendre la voix de ceux qui devront leur enseigner? On pourrait ajouter que ceux qui souffrent, ceux qui sont affamés, ceux qui n'ont rien à se mettre, ne seront pas pressés d'aller à Jérusalem pour se faire enseigner. Pensez-y. Non, ceux qui voudront se rendre à Jérusalem, ceux qui en seront capables, ce seront ceux qui se seront élevés à ce niveau de la pyramide de Maslow où l'on éprouve le besoin de s'accomplir. Ils se sentent bien dans leur peau. Leurs besoins de base ont été satisfaits et les voilà donc prêts à se laisser transformer en celui qu'ils sont censés émuler, à savoir Jésus-Christ. Les voilà conditionnés à procéder à un changement de leur façon de penser et d'agir. Verset 4. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il est ici question d'une époque où les besoins de chacun seront satisfaits. La nourriture sera abondante. On aura des vignes et des figuiers. Les gens auront des propriétés à eux, des maisons où habiter, toutes ces choses de base. Notez que, pour notre part, nous ne serons plus alors des êtres charnels. Nous serons au contraire des êtres spirituels. Notre responsabilité consistera alors à enseigner ces gens. Donc, ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Oui, les gens ne connaîtront plus la crainte à cette époque-là. Concentrons-nous à présent sur un autre passage. Nous allons parler de la création. Voyons Romains chapitre 8, les versets 18 à 20. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oui, tous ces problèmes que la vie nous réserve, qu'elle réserve en fait à tous les êtres humains, ne sont rien en comparaison de ce qui nous attend lorsque nous serons changés. Ce sera incroyable. Dieu poursuit en nous montrant, par l'intermédiaire de Paul, toutes ces guérisons dont bénéficieront pas seulement les êtres humains, mais la création elle-même. Verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Bien évidemment, la création ici personnifiée n'a pas réclamé qu'on la saccage, qu'on en fasse disparaître des espèces entières et qu'on pollue ses lacs et ses rivières. Il reviendra en fin de compte aux enfants de Dieu de libérer la création, de restaurer la terre, les rivières, les montagnes, les plantes et les animaux. Souvenez-vous que lorsque la deuxième coupe de la colère de Dieu sera répandue, juste avant le retour de Christ, tout être vivant dans la mer mourra. Voilà qui correspond à une extinction de masse. Cependant, parlant de la situation qui prévaudra dans le royaume de Dieu, on apprend de Sophonie et de Michée que les filets des pêcheurs seront placés sur les rochers afin qu'ils sèchent, ce qui indique manifestement qu'il y aura à nouveau des poissons dans la mer. Dieu aura donc effectué un miracle. Verset 22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. De nos jours, les personnes bien informées savent bien que la création se porte mal. Mais qu'est-ce qui ne va pas, demanderont certains? Eh bien, selon certaines sources, plus de 800 espèces animales auraient disparu, exterminées depuis les 100 dernières années. Nous, les humains, exterminons des espèces entières. Certes, il y a des gens qui dramatisent la situation qui prévaut actuellement, mais, à l'inverse, quantité d'autres font preuve d'insouciance à son égard. Ils veulent ignorer le problème. Par exemple, en Afrique, on est sur le point d'exterminer le rhinocéros. Et savez-vous pourquoi? Parce que leurs cornes valent près de 10 000 dollars l'once, ce qui correspond à plus de 350 dollars le gramme. Pas étonnant donc que ces cornes constituent un marché des plus lucratifs, principalement dans les pays du sud-est asiatique, où les gens sont superstitieux, et lui attribuent des vertus magiques pour guérir je ne sais quelle sorte de maladie. Ils vont alors inclure d'infimes quantités de poudre provenant de ces cornes de rhinocéros dans leurs aliments ou dans leurs boissons. C'est fou. Ils sont manifestement égarés par le Dieu de ce monde. Et c'est ainsi que nous détruisons des espèces, par nos superstitions. On se laisse dominer par une religion païenne. On se tourne vers une substance au lieu de se tourner vers Dieu. On recherchera une guérison en mettant de la poudre provenant d'une corne de rhinocéros dans son jus d'orange ou de mangue. Dire que notre Sauveur a enduré tous les coups qu'il a reçus afin que nous puissions être guéris par ses meurtrissures, comme le mentionne Ésaïe 53, verset 5. Nous polluons aussi les océans. Pensez à la marée noire causée par l'Exxon Valdez qui, suite à un fâcheux concours de circonstances, s'échoua au large des côtes de l'Alaska en mars 1989, répandant ainsi près de 50 millions de litres de pétrole dans l'environnement. Les effets de ce désastre écologique peuvent parfois encore s'observer de nos jours. Je suppose que vous avez tous pu voir certains de ces reportages qui montrent ce qui se passe lorsque ces nappes de pétrole déferlent sur les côtes et couvrent les plages, les plantes et certains animaux. C'est toxique. Dieu n'a jamais voulu que le pétrole soit ainsi répandu dans notre environnement. C'est pourquoi il l'a enfoui dans des poches souterraines dans les profondeurs de la terre, du moins dans la plupart des cas. Quels sont d'autres effets destructeurs dont nous nous rendons coupables? Nous savons que les pluies acides résulte de cette pollution que nous envoyons dans l'atmosphère. Lorsque ces pluies tombent dans nos lacs et rivières, elles en modifient le pH et cela cause la mort des poissons. C'est particulièrement sur la côte ouest des États-Unis que la situation est grave. Et pourquoi cela? Une cause majeure en est la forte activité industrielle en Chine. La pollution qu'elle engendre est alors envoyée dans l'atmosphère, où elle franchit l'océan Pacifique, pour finalement se déverser sous forme de pluie acide sur les montagnes de certains États, comme l'Oregon, l'État de Washington et celui de la Californie. Tout cela est causé par notre cupidité, qui nous amène à négliger notre impact sur l'environnement. On oublie les directives que Dieu avait, à l'origine, données à nos premiers parents, Adam et Ève. Il leur avait alors commandé de prendre soin de ce beau jardin d'Éden qu'il leur avait préparé. Hélas, on sait que nous avons échoué lamentablement dans ce domaine. C'est pourquoi Dieu devra restaurer la création et il nous incombera de participer à cette tâche. Considérons encore quelques autres passages qui ont rapport au sujet qui nous intéresse. La situation qui prévaudra au début du millénium et qu'il nous faudra corriger. Voyons pour cela Ésaïe chapitre 35. Il y aura donc au moins 2 milliards de gens qui auront survécu à la grande tribulation et aux événements du jour du Seigneur. Il faudra les relocaliser et leur fournir de quoi manger. La Bible mentionne entre autres que les gens jouiront des produits de leurs vignes et de leurs figuiers. Oui, on consommera encore du vin durant le millénium. On ne fera pas que manger du raisin. Christ, avant de mourir, n'a-t-il pas dit « Car, je vous le dis, Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Planter des vignes requiert de la place. Les figuiers, eux aussi, prennent de l'expansion et il leur faudra de la place pour s'étendre. À cette époque-là, les gens vivront des produits de la terre. Il n'y aura plus autant de magasins d'alimentation à tous les coins de rue comme aujourd'hui. Ésaïe 35, verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. C'est là une prophétie pour le futur, et elle s'applique au royaume à l'époque du millénium. À cette époque, la terre aride se réjouira. Le verset suivant explique pourquoi. Verset 2. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Certains d'entre vous vivent peut-être dans une zone aride, où il ne pousse généralement presque rien, hormis peut-être quelques broussailles. Cependant, lorsqu'il arrive parfois qu'un tel endroit désertique reçoive les pluies de la mousson, on assiste alors presque immédiatement à une explosion de fleurs, pendant un jour ou deux, jusqu'à ce que le soleil réapparaisse et se remette à brûler toute forme de végétation. Avez-vous une idée de l'étendue des déserts qui couvrent la surface du globe? On nous dit que les déserts couvrent près du tiers de sa surface. De plus, beaucoup de ces déserts sont en expansion. Imaginez maintenant ce qui se produira lorsque ces surfaces désertiques redeviendront luxuriantes et permettront de nourrir des populations. Voyons cette vision qu'Ésaïe 43 donne à propos de ce que sera la vie dans le royaume de Dieu. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Dieu fera couler des rivières dans les déserts. Ce ne seront pas des rivières de sable, des wadis ou des weds, ces rivières de sable qui ne s'animent que durant une brève période de temps au gré des pluies de la mousson. Non, ces rivières que Dieu fera surgir dans les déserts seront des rivières soutenues. Évidemment, pour cela, il faudra apporter des changements à la topographie des lieux. Mais comme il a été mentionné à l'occasion de la fête des trompettes, le retour de Christ s'accompagnera de grands tremblements de terre, et toutes les montagnes et toutes les îles seront remuées de leur place, selon 2 Pierre chapitre 3 verset 10. À son tour, cela conduira à un changement de configuration des océans et des continents, ainsi que du climat de la planète. En effet, en abaissant les montagnes, on fait fuir les déserts, selon les spécialistes. Ainsi, on sait que lorsque les vents chargés d'humidité rencontrent une barrière montagneuse, ils sont forcés à s'élever. Cela refroidira le nuage qui laissera alors tomber de la pluie. En arrivant sur l'autre versant, ces mêmes vents, maintenant privés d'humidité, causeront la formation de zones arides. Cela est un phénomène d'autant plus marqué que la montagne est plus élevée. Dieu va donc procéder à l'élimination d'un grand nombre de déserts tout simplement en abaissant les montagnes, particulièrement les montagnes les plus élevées. Voici une façon de rendre à la culture une bonne partie de ces terres qui sont à l'heure actuelle des déserts. À nouveau, verset 20, « Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. » Ce sera une époque excitante, lorsque Dieu interviendra dans les affaires du monde, lorsqu'il accomplira ses promesses à l'humanité pour ses temps futurs, quand le royaume de Dieu sera établi sur terre. Par ailleurs, à quel point la terre aura-t-elle été contaminée par la radioactivité à la suite de la Troisième Guerre mondiale? Quel sera le pourcentage des terres qui en seront affectées? N'oublions pas que même si près de 30 ans se sont écoulés depuis Tchernobyl, on ne peut toujours pas vivre dans cette ville. Oh, vous pouvez à la rigueur vous y rendre pendant une heure ou deux, mais il vous faudra emporter un compteur GGR avec vous pour contrôler votre exposition aux radiations. Frères et sœurs, avez-vous déjà songé au type d'affliction physique dont vous aimeriez délivrer les gens quand le royaume de Dieu sera établi ici-bas? Retournons à Ésaïe 35 et lisons cette fois le verset 3. Quels sont ceux à qui Dieu donnera la capacité de guérir? Et de quelles afflictions allez-vous guérir les gens? Ésaïe 35, verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. À quoi cela vous fait-il penser? Peut-être à l'arthrite, peut-être à une maladie articulaire dégénérative, ou encore des conditions musculaires dégénératives telles que la dystrophie musculaire. Possible aussi que chez certains individus qui ont fait un AVC, on assiste à des faiblesses au niveau des mains, des pieds ou des genoux. Il est vrai que de tels symptômes peuvent aussi résulter de l'âge. Cela devra nous donner le goût d'agir, surtout au début du millénium, lorsque beaucoup de personnes seront dans un piètre état. Dieu nous demandera alors de guérir ces gens, puis de leur enseigner sa voie. Oui, on procédera dans cet ordre. On devra d'abord les guérir de leurs afflictions, et ce n'est qu'ensuite qu'ils pourront et qu'ils seront disposés à écouter nos recommandations. Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Allons-nous simplement dire à ceux qui ont le cœur troublé de faire preuve de courage et de surmonter leurs craintes? Non, il nous faudra les sécuriser. Dans bien des cas, il nous faudra les guérir des traumatismes qu'ils auront vécus. C'est que, durant 3 ans et demi, ils auront vécu dans la peur. Dépendamment de l'endroit où ils habitaient, cela aura même pu se traduire par une peur constante de perdre la vie. En ce moment même, on compte près de 200 000 petits Syriens parmi les populations qui ont été déplacées à la suite de tous ces conflits armés entre les forces gouvernementales et les rebelles. C'est effectivement une guerre civile qu'ils se livrent là-bas, et cela affecte près de 200 000 enfants. Et encore, on ne parle même pas des femmes, des pères, des maris, des grands-parents, et des adultes en général qui sont tous pris dans la tourmente, eux aussi. Ces enfants vont avoir grandi dans un climat de peur constante. Ils n'auront cessé d'entendre des missiles passer au-dessus de leur tête. Ils auront constamment été exposés au bruit des armes à feu automatique. Chaque fois qu'ils sortent de leur abri, il leur faut courir la tête baissée. Pouvez-vous vous imaginer l'effet que cela produit sur un enfant lorsqu'il vit ainsi en permanence avec la crainte de la mort? Lorsque son père ou sa mère quitteront leur abri pour leur procurer de la nourriture ou pour aller travailler, il se demandera chaque fois s'il les reverra. Quel effet dévastateur sur un petit cerveau d'enfant! Dieu dit que cela va cesser, que ceux qui ont le cœur troublé pourront respirer librement. Encore nous faudra-t-il intervenir au début pour dissiper leurs craintes et leur redonner confiance. Saviez-vous que plus du quart de toutes les maladies mentales sont causées par des dérèglements engendrés par l'anxiété? Oui, plus du quart des malades mentaux sont dans un tel état parce qu'ils sont rongés par la peur et les soucis. C'est au point que certains sont tellement inquiets et apeurés qu'ils sont figés dans l'inaction, incapables de poursuivre une vie normale. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Dans notre société actuelle, les gens souffrent de tant de maux, et nous nous efforçons de les aider. Il n'en sera plus ainsi dans le royaume de Dieu. Ceux qui présentaient des problèmes de vision ou de surdité s'en trouveront libérés, ils en seront guéris. C'est là une promesse de Dieu. Cela me rappelle une expérience que j'ai vécue à une fête des tabernacles, il y a longtemps. Ma femme et moi étions assis en compagnie d'un membre de l'église qui était aveugle. Nous pouvions l'observer en train de manger du spaghetti. Pas facile quand on est aveugle. Comment pouvez-vous savoir quand vous aurez atteint la fin de la nouille? À un moment donné, ma femme lui demanda ceux qui l'anticipaient le plus dans le royaume. Cet homme avait été aveugle dès sa naissance, et il semblait alors s'approcher de la cinquantaine. Sa réponse nous surprit quelque peu. Il répondit : J'ai hâte de voir des nuages. Puis il ajouta : Vous savez, quand on veut me décrire de quoi ils ont l'air, on me les dépeint comme ressemblant à du coton. Bon, je peux toucher du coton, mais sa texture ne me permet pas pour autant d'imaginer à quoi ressemble un nuage. Effectivement, observer des nuages, admirer un beau coucher de soleil, se laisser attendrir à la vue d'un nouveau-né aux côtés de sa mère, suivre des yeux un enfant qui fait ses premiers pas en tenant la main d'un grand-parent, tout cela deviendra accessible à nos aveugles quand le royaume sera établi sur terre. La Bible ne dit-elle pas que nous verrions de nos propres yeux ceux qui nous enseigneront? Pareillement, à cette époque-là, les gens qui étaient atteints de surdité pourront alors entendre la voix de leurs enfants. Ils pourront aussi prêter l'oreille au bruit du vent dans les arbres ou au grondement du tonnerre au passage d'un orage. Verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Quelle sensation et quelle joie pour quelqu'un qui aura ainsi été guéri soudainement d'une incapacité de faire usage de ses jambes, ou qui les aura peut-être perdues pour avoir marché dans un champ de mine, ou à la suite d'un accident d'auto. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Lors de la soirée inaugurale, Dr. Meredith mentionnait justement ce qu'éprouveraient de telles personnes lorsque, suite à leur guérison, elles pourront peut-être entendre leur propre voix pour la première fois. Pouvoir chanter peut procurer du plaisir, surtout lorsqu'on chante juste. Fin du verset 6. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là, verset 8, un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Quelle époque merveilleuse! Verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Imaginez un peu, plus de tristesse, plus de soupirs. Combien de gens tristes et abattus avez-vous connus dans votre vie? Ne serait-ce pas merveilleux de pouvoir atteindre leur cœur et de les en délivrer, puis de leur donner quelque chose de formidable en échange? Oui, il n'y aura plus alors de douleur et de gémissement, car les rachetés de l'Éternel reviendront. Frères et sœurs, quelle transformation devra-t-on opérer dans l'esprit d'une personne? Qu'est-ce qui leur donnera à nouveau le goût de chanter, après avoir vécu les horreurs de la grande tribulation? Pensez-y. Pourront-ils jamais à nouveau verser des larmes de joie? Pourront-ils à nouveau avoir le cœur en paix, éprouver du contentement, cesser de s'en faire, renouer avec la joie et espérer en un avenir meilleur? Plus de souffrance, un corps sain. Reportons-nous à Ésaïe 51. Là, au verset 11 à 13, nous lisons, Ésaïe 51, verset 11, « Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre? et tu tremblerais constamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur? Oui, ces gens auront été continuellement assiégés par la peur, et il faudra les délivrer de leur crainte. Il faudra les guérir. Peut-être qu'on ne les en délivrera pas totalement, pour qu'ils puissent aussi fournir un effort personnel dans ce sens. Si, comme moi, vous avez connu de ces personnes qui étaient à ce point prisonnières de leurs craintes et de leurs soucis qu'elles en étaient devenues apathiques, vous comprendrez ce que Dieu veut dire ici. Continuons verset 15. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est mon nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. » Oui, Dieu placera sa main sur eux. Il les protégera, leur apportant ce réconfort permanent que seul leur Père céleste tout-puissant sera en mesure de leur accorder. Fini alors ces inquiétudes qui les tourmentaient. Reportons-nous à présent vers Ézéchiel chapitre 34 au verset 16. Ézéchiel 34 verset 16. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Dieu promet donc de s'occuper de ces brebis qui étaient en détresse, de ces brebis dont le cœur était brisé. Voyons maintenant Ésaïe chapitre 61. Dieu a donné à Ésaïe des visions fantastiques à propos du millénium, une époque qui sera radicalement différente de la nôtre. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est là ce que nous serons amenés à faire au début du millénium. Il n'est pas facile de travailler avec quelqu'un dont le cœur est brisé. Vous le savez bien, si vous avez eu à le faire dans le passé, ou si vous avez vous-même présenté de tels symptômes. D'ailleurs, si vous ne les avez plus, c'est parce que vous en avez été guéri. Poursuivons. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Frères et sœurs, qui sont ceux qui ont le cœur brisé? Qui seront-ils? Que signifie avoir le cœur brisé? Quelles sont ces situations qui peuvent causer qu'un cœur se brise? Les Écritures révèlent les types d'expériences que les gens auront connues durant la grande tribulation. Des cas de cannibalisme, le fait d'avoir leur famille capturée, puis séparée, être contraint de devoir assister à la torture de ses enfants ou de ses parents, les voir déportés pour se faire ensuite exterminer. Durant l'époque hitlérienne, on a été exposé à maints scénarios de ce type qui ont résulté en des cœurs brisés. Pour guérir les victimes de ces traitements, il faut pouvoir agir sur leur esprit et leur cœur. Revenons brièvement à la pyramide de Maslow, où il est question de cette hiérarchie des besoins. Dans le millénium, les gens seront disposés à se laisser enseigner, et cela parce que l'on aura pourvu à leurs besoins primaires. Ce n'est en effet que lorsqu'ils se sentiront bien dans leur peau, qu'ils auront été guéris de leurs afflictions physiques et mentales, qu'ils pourront vraiment se concentrer pleinement sur la voie de Dieu et sur la tâche de surmonter leurs problèmes spirituels. Ce n'est que lorsque ces nécessités de base que Dieu a placées en nous seront satisfaites que les gens vont considérer les voies de Dieu et accepter de s'y conformer pour graduellement devenir comme lui. Encore nous faudra-t-il pour cela les entourer d'amour et de compassion. En tout premier lieu, Il nous faudra donc guérir leur corps, de même que leur cœur, et leur donner une nourriture saine, un abri agréable où ils se sentiront en sécurité, ainsi que du linge confortable pour les vêtir. Ce n'est qu'alors qu'ils commenceront à nous faire confiance et qu'ils comprendront d'où nous viennent ces pouvoirs de guérison, et ils voudront alors en savoir davantage. Frères et sœurs, combien y a-t-il de gens dans le monde qui souffrent actuellement de troubles mentaux, émotionnels ou physiques? Ils sont nombreux, assurément. Combien plus nombreux seront-ils après qu'ils auront passé par la grande tribulation, avec toutes les atrocités qui s'y commettront? En fait, selon la Bible, les gens vont même finir par prier pour que les montagnes et les rochers tombent sur eux, afin d'être libérés de tout. Mais ceci n'aura pas lieu. À nouveau, de quoi auront-ils l'air et comment vont-ils se sentir après avoir passé par la grande tribulation? Pour en avoir une idée, il vous suffit de penser aux survivants de l'Holocauste, ou même, plus près de nous, à tous ces gens qui, à l'heure actuelle, souffrent terriblement dans diverses parties du monde. Comprenez-vous à présent à quel point le monde a besoin de guérison? De quel type d'affliction allez-vous désirer les soulager? Comprenez-vous maintenant à quel point notre société a besoin d'être guérie? Avez-vous hâte de délivrer de leur sort ces pauvres gens qui ont toujours vécu dans la misère, dans la crasse et dans des conditions sordides? Certains auront peut-être dû se contenter de vivre dans des abris de carton, comme tant d'autres autour d'eux. Ne serait-ce pas fantastique de pouvoir les loger dans des maisons, où même leurs enfants pourraient avoir une chambre à eux? Aimeriez-vous leur procurer des lits confortables et leur donner accès à des facilités sanitaires, afin qu'ils puissent, pour la première fois de leur vie peut-être, goûter au plaisir d'un bon bain chaud? Puis de leur servir un bon repas avec une variété de plats succulents? Toutes des choses qu'ils n'ont peut-être jamais connues, voire imaginées. Peut-être que vous pourriez même leur donner accès à un jardin, avec des arbres fruitiers, un jardin dont ils pourraient apprécier la tranquillité et la fraîcheur. De pareilles pensées ne seront pas une utopie lorsque le millénium s'implantera ici-bas. En faire une réalité permettra à ceux qui en bénéficieront de vouloir s'approcher de Dieu et de suivre sa voie, et de cesser de poursuivre les voies du péché. Quelle sera la réaction de ces gens lorsqu'ils nous verront, nous qui serons alors les enfants de Dieu, les représentants du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs? Quelle sera leur réaction lorsqu'ils nous verront aller au-devant d'eux pour leur témoigner toute notre sollicitude, un amour profond et sincère, ainsi que de la miséricorde, sans oublier tous ces pouvoirs de guérison que Dieu nous aura accordés? Comment vont-ils réagir en notre présence, nous, les enfants de Dieu, qui leur apparaîtront selon l'image et la ressemblance de Dieu, avec la gloire potentielle que chacun de nous aura reçue? Comment réagiront-ils lorsqu'ils nous verront revêtus de cette puissance de Dieu qui nous permettra de guérir le monde, de le changer et d'offrir certaines commodités matérielles à des gens qui n'ont jamais rien possédé? On les entourera, on leur témoignera de l'amour et on leur fera comprendre que dorénavant tout ira bien. Ce sera le début d'une ère de paix. Que diront-ils donc en nous voyant? Pour la réponse, tournons-nous vers Ésaïe chapitre 52. Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Oui, ce sera le règne de Dieu, pas d'un homme ou d'un faux prophète ou d'une bête. Fini l'ère de ces dirigeants qui n'ont souci que de leurs propres avantages ou de leur réputation. Oui, beaux seront les pieds de ceux qui changeront le monde et qui apporteront la guérison à l'humanité souffrante. Frères et sœurs, dans les jours à venir, pourquoi ne pas prêter une attention spéciale à ceux qui vous entourent et qui ont besoin d'être guéris? Certains partageront peut-être la fête avec vous. D'autres seront peut-être des individus avec qui vous entrerez en contact en quittant ces lieux cet après-midi ou que vous rencontrerez plus tard au restaurant ou dans d'autres circonstances. Nous ne sommes pas encore sortis de ce monde. Nous en faisons toujours partie. Dans les discussions que vous aurez entre vous, je vous encourage à parler des thèmes que nous avons abordés aujourd'hui. Comment nous apporterons la guérison à ce monde et ce qui se produira ici-bas, au retour de Christ. Ce que nous ressentirons lorsque nous serons amenés à délivrer les gens de leurs maladies et de leurs craintes et obsessions. Les boiteux seront-ils les seuls à sauter de joie quand ils se verront guéris? N'allons-nous pas, nous aussi, agir de même? Dans vos conversations, évoquez ce que vous projetez de faire avec les gens de ce monde, lorsque vous leur donnerez un nouveau départ dans la vie, selon les directives de Dieu. Je vous encourage fortement à donner libre cours à votre imagination en ce qui a trait à ce concept de guérison du monde. Parlez-en parmi vous. Méditez sur ce que sera un monde sans tristesse, lorsque les gens ne pleureront plus de douleur. Que cela vous amène à anticiper plus que jamais l'établissement du royaume de Dieu ici-bas. Une époque où, conjointement avec Dieu le Père, nous commencerons à guérir ce monde.